Je sais que vous avez déjà été béni ce matin. Je me disais en écoutant, participant à la louange, que c'est bon, vous savez, pour quelqu'un qui doit apporter un message, que des choses soient déjà bien posées au temps de la louange. Nous avons chanté « Tu ne m'as jamais abandonné ». Tout peut s'écrouler autour de nous, « Tu ne m'as jamais abandonné, Dieu est fidèle ». Et comme ce matin, je vais venir sur mon message, mais vraiment, je voudrais que vous ayez ça dans votre cœur. On va aborder des choses de la marche chrétienne, de la croissance chrétienne, qui ne sont pas toujours faciles à entendre même. Mais je ne vais pas redévelopper ces thèmes que nous avons chantés. Il ne nous abandonne pas dans aucune circonstance, quelles que soient les circonstances de votre vie. Le Seigneur travaille. Nous avons chanté aussi que Dieu est souverain pour nous transformer. Dieu est souverain, c'est pas rien ce qu'on chante. On dit « Seigneur, tu es souverain du temps, du moment, des moyens, des circonstances pour me transformer. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Moi, j'aime bien ces chants, il y a du contenu là. Nous avons parlé de montagne aussi. De montagne. Alors ça, j'en dirai un petit mot, si j'oublie pas, je vais essayer de ne pas oublier, j'ai renoté, sur les montagnes. Il y a des montagnes dans nos vies. Il y a plusieurs façons pour qu'elles disparaissent. Il y a plusieurs façons, je vous expliquerai. Il m'est venu une pensée en entendant ce chant. Donc vraiment, c'est important ce temps de louange parce que ça dispose nos cœurs et ça établit dans nos cœurs que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, il est souverain. Et je vous demande tout au long de ce que je vais vous partager de bien garder ça à l'esprit parce que, dire, il n'est pas forcément très drôle. Mais je sais, on me le dit, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez bien ça établi dans vos cœurs. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La croissance en Christ, deux points, la nécessité d'un cœur brisé ». Et encore, en préparant ce message, je me dis, mais Seigneur Robert, tu vas avoir devant toi peut-être des hommes et des femmes qui viennent pour la première fois, qui vivent des situations pas possibles, qui sont peut-être révoltés, qui sont peut-être dans des souffrances terribles, et tu vas leur parler de cœur brisé. Oui, que le Seigneur me fasse grâce. Je vais d'ailleurs prier pour cela. Seigneur, je viens devant toi là. Et j'ai à cœur, Seigneur, de parler à mes frères et sœurs et aux amis qui sont venus là ce matin. Seigneur, certains en t'écoutant ont dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Seigneur, je proclame que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne rejette pas celui qui vient à lui. Seigneur, celui qui est dans la détresse, celui qui est dans les angoisses, Seigneur. Celui qui est dans la révolte, Seigneur. Tu dis même, Seigneur, que tu ne veux pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et qu'il vienne à toi. Je te prie ce matin, Seigneur, qu'à travers ce que nous allons partager, Seigneur, oh Seigneur, les cœurs des vraies libérations opèrent et interviennent dans les vies. Amen. C'est vrai que nous rappelons souvent les promesses de Dieu pour ceux qui le craignent et lui appartiennent. Moi-même, je me plais à souligner souvent dans les réunions de prière, le mardi soir, nous lisons souvent des psaumes, et c'est vrai que je me prie à souligner ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, supposons le psaume 128, ça ne va pas être le thème de mon message, mais il est intéressant. Le psaume 128, par exemple, il m'a beaucoup parlé dans ma vie, « Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, et alors on voit les conséquences, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. » Psaume merveilleux. Mais la parole, elle est sérieuse. C'est-à-dire, heureux celui qui craint l'Éternel, il va lui arriver de bonnes choses, etc. Promesse également de délivrer celui qui crie à lui dans la détresse. Il est celui qui pardonne l'iniquité, le péché et même la rébellion. Voilà le Dieu, voilà ce qu'il s'engage à faire, ce qu'il fait, ce qu'il opère, et pourtant. il faut reconnaître que bien des personnes qui fréquentent des assemblées chrétiennes, et même des chrétiens, parce que fréquentent des assemblées chrétiennes, des hommes et des femmes qui cherchent, qui ont cherché dans plein de voies et qui un jour se retrouvent dans une assemblée où la parole de Dieu est annoncée et prêchée, hein, puisqu'il a dit comment connaîtront-ils si personne ne prêche, et c'est ce que nous faisons. Eh bien, on est obligé de constater, et en tant que berger, et nous sommes plusieurs à accompagner des personnes dans des soins, on va dire pastoraux, enfin, comme vous voulez, en tout cas, à aider des frères et sœurs, et des hommes et des femmes qui cherchent, eh bien, nous sommes obligés de constater que même des chrétiens nés de nouveau vivent des situations très difficiles, j'allais dire qu'ils résistent, c'est pas une expression très heureuse, mais qu'ils résistent à la prière persévérante et aux accompagnements de tous ordres. Alors ce matin, je vous propose d'envisager que parfois, nos cœurs, notre être intérieur, résistent à ce que Dieu nous montre. Et qu'alors se produit un durcissement du cœur. Ce matin, je saluais un frère, et il me dit, j'ai une épine. Et ça me parlait. Vous savez, une épine, si on ne la sort pas tout de suite, des fois, on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, mon épouse, qui était une infirmière, me dit, ça fait une induration. Hein, vous savez, c'est une espèce de petite coque, là. Et puis alors, c'est de plus en plus compliqué. Et si on laisse, peut y avoir un, des infections, ou deux, eh bien, il faudra opérer cette fois-ci. Hein, avec tous les risques d'une opération, on y reviendra peut-être, j'en parlerai un peu. Donc voilà, il y a vraiment des choses, des situations où notre cœur se durcit. Alors peut-être je suis le seul, parce que là je sens... D'accord. Vous savez, c'est comme les artères aussi qui perdent leur souplesse. Hein? Et alors, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc ce matin, je voudrais qu'on envisage cela. Je prends beaucoup de précautions qu'on ne me fasse pas dire, ah, si tu as des problèmes et puis tu t'en sors pas, c'est que ton cœur est endurci, c'est cuit pour toi, etc. Eh bien non, c'est pas cuit, parce que justement, je voudrais bien qu'on voit comment on s'en sort. Et puis, ce n'est pas les seules raisons. Il peut y avoir, avec des cœurs ouverts, bien disposés, des épreuves qui durent. Hein? Que ce soit bien clair, cette histoire-là. En tout cas, voir comment sortir de telles situations, je vous le dis tout de suite, lorsqu'une coque dure entoure un fruit ou une semence, un noyau, si on veut accéder à l'amande, et finalement là où il y a la vie, il y a le germe de vie pour que cette vie se développe, il faudra que cette coque soit brisée, pour que la vie soit libérée et puisse se développer. D'où le titre de mon message, croissance de point nécessité d'un cœur brisé. C'est un état, je veux dire, le cœur brisé, mais pour arriver à cet état, eh bien, il faut qu'il y ait un brisement. De même que pour l'humilité, ça passe, nous l'avons rappelé il y a quelque temps, par des humiliations. Il nous faut bien accepter cela. C'est David qui nous parle de cela. Il dit, le Seigneur ne dédaigne pas, vous savez, dans ce psaume 51, le psaume où David se repent, et il dit à un moment, le Seigneur ne dédaigne pas un cœur brisé, un esprit contrit. Les hommes, quelqu'un qui pleure et qui est vraiment dans la souffrance trop longtemps, à la fin, bon, on s'en occupe un peu, on a un peu de compassion, puis ça nous gêne quand même, hein. Mais à un moment, il dira le bal. Le Seigneur, lui, non. Il ne dédaigne pas un cœur brisé, un esprit contrit. Une autre image, puisque nous sommes le 11 septembre, vu comme ça, 11 septembre, c'est un truc qui vous dit quelque chose. Je sais que depuis, il y a eu le 13 novembre, qu'il y a eu le 15 janvier 2015, mais vous voyez, ça passe vite. Mais c'est intéressant, le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Des tours se sont effondrées. Les Twin Towers, vous savez que dans Jérémie, il y a un passage qui dit ça. Le jour de l'effondrement des tours. Et il y a des tours, effectivement, je crois qu'il y a nécessité que certaines tours qui n'ont pas été bâties par l'architecte et le constructeur, qu'est le Seigneur Jésus-Christ et le Père éternel, que certaines tours s'effondrent dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez ces images, moi j'étais en séminaire avec des collaborateurs sur Belle-Île, on était bien, et à un moment la télé est ouverte, on a vu ces scènes terribles, des tours qui s'effondrent. Eh bien il y a des tours, il faut le dire, dans nos vies qui ont besoin de s'effondrer. Il me venait aussi une autre image, sur les montagnes justement, Alors là, je vais parler de falaises. Je lisais un article l'autre jour dans la région, les falaises d'Étretat. Les scientifiques se demandent pourquoi il y a des pans de falaises énormes qui tombent. Alors ils font des analyses, des mesures, etc. Et ça me parlait sur le terme, en ce sens que une falaise, il y a plein de causes, hein, ils n'ont pas tout trouvé. Alors moi j'avais ce truc qui m'était venu, je ne l'ai pas lu, mais ça m'était venu en observant la mer, vous savez, la mer et la falaise, vous savez qui tombe et qui se fatigue le premier? C'est la falaise. Ça met le temps. Ça met le temps. Mais la mer use au pied de la falaise et ça tombe. Et je crois que c'est une bonne image aussi. Il y a ça, il y a des sécheresses importantes qui amènent des fissurations. Bref, il y a un travail en profondeur, et je pense que c'est valable pour nos cœurs. On ne pourra pas tout expliquer, le comment et le pourquoi des choses surviennent dans nos vies, mais soyons reconnaissants, disons, Seigneur, tu es souverain pour la transformation de ma vie. Tu es souverain. Alors, l'endurcissement du cœur. Alors, la parole est écoutez, elle est assez abondante sur les illustrations de personnages dont le cœur s'est endurci. Je commencerai, certains vont me, là aussi, vont savoir de qui je vais parler tout de suite, Pharaon. Hein, on connaît l'histoire, je ne vais pas relire tous les textes. Moïse est envoyé pour libérer le peuple, c'est intéressant. Il va voir Pharaon et il dit, laisse aller mon peuple au désert pour qu'il prie. Pharaon dit, mais mon œil, il leur dit tout un tas de choses. Tu crois que je vais laisser aller un peuple qui bosse, qui fait ma richesse, aller glander pendant 3 jours? Il n'est pas question de ça. Et après, il les traite de fainéants. Et finalement, alors qu'il y a une annonce de libération, j'insiste là-dessus, alors qu'il y a une annonce de libération, finalement, c'est un joug qui s'alourdit, du moins dans un premier temps. Mais Dieu, rien n'est impossible à Dieu, il confirme, je vais libérer mon peuple. Et pour cela, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moïse va parler à Pharaon, il dit, laisse aller le peuple. Pharaon va refuser et il y aura les 10 plaies d'Égypte. Vous connaissez tout cela. Nous avons tout un... L'Éternel dit, Pharaon est en train d'endurcir son cœur. Et effectivement, à chaque étape, il a une espèce de fausse repentance. Il dit, oui, je vais laisser aller. Puis finalement, il revient sur ce qu'il fait et il maintient l'oppression. Il endurcit son cœur. Un autre exemple, Caïn. Caïn, c'est intéressant parce que il y a quelque chose qui naît à partir d'une offrande, finalement à partir d'une démarche religieuse, il y a quelque chose qui vient se planter dans son cœur, la jalousie qui enlève sa joie du culte. Et l'Éternel lui dit, il lui dit ce qui se passe. Le péché couché à ta porte, mais lève les yeux, surmonte, et tu vas le vaincre. Et Caïn va pas obéir à cela. Il va se laisser emmener par sa jalousie. Et la jalousie va développer de la haine, de l'amertume et finalement du meurtre. Il n'a pas écouté, il s'est endurci. Je ne sais quelles sont les pensées qui sont venues dans le cœur de Caïn, mais j'ai raison, c'est quand même pas normal. Abel est là avec son agneau et moi et machin. Et il a continué son processus, il s'est endurci. Il n'a pas saisi l'occasion, Dieu présente toujours une occasion de revenir. Il ouvre toujours une porte pour revenir. À Caïn, lors de la défaite d'Aï. Et là, nous allons lire le passage, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir que l'homme est responsable de l'endurcissement qui vient dans son cœur. Josué, chapitre 13, les versets 7 à 21. Josué. Finalement, les onglets, je me sens obligé de les utiliser. Josué chapitre 13, versets 17 à 21. Non, qu'est-ce que je vous raconte là ? Pardon, c'est Josué 7. Pardon. Versets effectivement 13 à 21. Donc, rappelle rapidement le contexte. Il y a eu la conquête de Jéricho, tout s'est très bien passé. À Haï, il y a une défaite. Josué dit, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'Éternel lui dit, il y a un interdit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le peuple. Il y a quelque chose, il y a une désobéissance. Et je vais la traiter. Et nous en sommes là. L'Éternel dit au verset 13 à Josué, « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. » Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. » « Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Je ne lis pas la suite. Akan a péri, a été tué, exterminé, sorti du peuple. Pourquoi ? Dieu a des promesses pour nous. Il dit, je te donnerai ce pays. Ce pays est infesté, on va le nettoyer. On va le nettoyer. Alors vous allez me dire, c'est très guerrier. Oui, l'Ancien Testament est très guerrier. Dieu nous a donné l'image d'un peuple. Mais il faut savoir que les tribus qui étaient là étaient des tribus particulièrement idolâtres, qui amenaient des sacrifices humains et bien d'autres choses, un tas d'abominations, de prostitution, des choses terribles qui... Voilà, qui mérite la mort. Même si Christ est mort, il est maintenant pour ceux qui reconnaissent leurs affaires. Et le problème là, c'est qu'il y a eu une désobéissance, et cette désobéissance, il n'y a pas eu de repentance, de retour. Mais Dieu avertit, Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que je voulais lire ce texte. La veille, Dieu dit ce qu'il va faire. Il n'a pas son doigt pointeur sur Akan. Il annonce, par la bouche de son prophète, « Voilà comment je veux se procéder. » Et Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Notez au passage que la personne concernée, Akan, a eu une nuit pour réfléchir. Une nuit pour réfléchir. Dieu a dit exactement ce qu'il allait faire. Et il a ouvert autant de portes pour la repentance. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Je désignerai d'abord une tribu, puis par famille, puis la famille dans la famille, la maison, et ensuite par homme. Ça fait au moins 5 ou 6 occasions de dire je lâche, j'y vais. J'y vais, puis j'avoue que c'est moi, de tout mon cœur. Comprenons bien, ces textes, ils ne sont pas. Dieu offre toujours. Toujours, 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 toujours. Dieu tend la main. Reviens. Reviens à moi. Allez. Alors vous allez me dire, mais il a confessé. Ah oui, il a confessé. J'allais dire, il a été acculé à confesser. Mais il n'a pas confessé de tout son cœur. Il a confessé, mais il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il a confessé, mais il ne s'est pas repenti. Endurcissement. Endurcissement. Et c'est vrai, vous savez, c'est très concret. Le Saint-Esprit, on aime bien qu'il parle, le Saint-Esprit, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous montre. Il nous montre une parole, des fois, ça, c'est sur pas grand-chose. Une moquerie. Le Saint-Esprit parle. Et là, c'était clair. Achan savait ce qu'il a fait. Il a été averti la veille. Il avertit toutes ces étapes. C'est vraiment le problème, c'est qu'il y a une méconnaissance de qui est Dieu. Il est saint, mais il est miséricordieux. C'est combien j'aime ses paroles. Il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Mais il ne tient pas le pécheur pour innocent. Et il offre au pécheur toutes les voies, toutes les portes pour revenir, pour être nettoyé, pour être libéré. Pour que la vie puisse se répandre. Achab et Jézabel. Où est l'endurcissement chez Achab et Jézabel? Achab. Il y avait un prophète en ce temps-là qui amenait le conseil de Dieu. Achab, d'abord, a épousé une fille d'une tribu que le Seigneur avait dit n'épouse pas. Ne faites pas alliance avec ces tribus idolâtres, ils vont vous entraîner. C'est ce qui s'est passé. Et puis Achab, c'est un homme lâche. C'est un grand enfant. Mais nous avons tout à l'heure béni les enfants et c'est formidable. Les enfants, il y a encore un cœur innocent, mais quand on est adulte, rester des enfants concernant la méchanceté, mais pour les choses de Dieu, soyez adultes. Alors nous pouvons avoir des problèmes. Achab avait des problèmes. C'était, il avait envie, il pignait comme un gamin. Et du coup, son épouse, Jézabel, qui a une lourde hérédité, il faut le dire, eh bien, Jézabel va prendre un rôle qui n'est pas du tout le sien. Elle va traiter Achab comme un gamin. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'il voulait. Sauf que cette histoire-là, elle peut paraître sympathique, sauf que Achab, avec la convoitise, le champ de Naboth, etc., ça va conduire à des meurtres. Il est entièrement centré sur lui. Il se pose comme une victime. Et puis, du coup, Jézabel, elle va persévérer aussi dans tout un tas d'opérations de manipulation et d'usurpation d'une autorité qu'elle n'avait pas à prendre dans cette affaire-là. Vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est les processus. Ça s'aggrave. Ananias et Saphira, là aussi. Là, on peut dire qu'il y avait la présence du Saint-Esprit. Ananias et Saphira, il nous est dit dans le chapitre juste avant que Barnabas, un homme qui avait des biens, vendit son champ, il a amené tout l'argent aux pieds des apôtres. Et Ananias et Saphira ont dû dire, ah oui, ça fait bien ça quand même. Et ils ont fait, mais ils ont gardé une partie de l'argent. Personne ne leur demandait ça. Ni de vendre leur champ. Et s'ils vendaient, ils pouvaient en garder une part pour eux. Et le Saint-Esprit, là, il y a une présence du Saint-Esprit. Vous connaissez les paroles de Pierre, qui a dénoncé la chose et qui a laissé une porte, je pense notamment à Saphira. Est-ce bien ainsi que vous avez fait? Elle avait une occasion, une dernière porte, pour dire non. Ça suffit, son mari venait de mourir, jugé par un jugement de Dieu. Une dernière porte s'offre. Est-ce bien ainsi? Non, 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 je reconnais finalement, c'est pas ainsi. Les pharisiens et religieux, en parcourant les évangiles, nous voyons comment ces hommes qui connaissent la parole de Dieu et qui sont zélés pour lui rendre un culte vont s'opposer à Jésus au point... Nous dit Jésus, c'est des paroles qui m'ont vraiment troublé longtemps, qu'ils n'entendront mais ne comprendront point, qu'ils regarderont mais ne verront point. Nous allons lire dans Matthieu, à ce sujet-là, c'est Matthieu 13, les versets 10 à 15. « versets 10 à 15. C'est intéressant ce passage. Matthieu 13, versets 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Vous savez, avec ces histoires, somme toute assez simples, assez compréhensibles, hein, qu'il adressait des fois à des foules. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ce passage est éclairé par deux autres passages. Matthieu 5, il y a tout le récit des béatitudes. « Heureux ceux qui sont simples d'esprit, car ils verront Dieu. » Et dans Matthieu, je crois, 19, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits. » Les paraboles sont compréhensibles par des cœurs simples, bien disposés. Des cœurs simples et bien disposés. Mais si nous sommes enfermés dans nos raisonnements, dans notre connaissance et que nous nous y accrochons, ça peut être des doctrines, c'était le cas pour les pharisiens, ne croyons pas que ça leur est réservé. Ça nous guette. Ça me guette. De s'accrocher après à des raisonnements, et à un moment, la relation avec Dieu si simple, elle est supprimée, elle se ferme petit à petit. Vous voyez, ces choses-là n'arrivent pas en un jour, on ne peut pas développer, mais lisez l'évangile de Jean, on voit la montée de l'opposition. Et cette opposition, elle vient parce qu'ils ont compris au début. Ils ont compris, ils savent que c'est là le Fils de Dieu, que c'est là le Messie. Mais s'ils reconnaissent, alors ça va tout bouleverser dans leur vie. Et tout pouvoir va être perdu, toute cette autorité, toute cette connaissance qui enfle va être perdue. Pilate, endurcissement. Il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal, mais n'en tire pas la conclusion. J'aurais insisté là-dessus, combien de situations où finalement, au bout d'un échange, on finit par reconnaître, oui, il y a ça qui ne va pas, mais j'en tire pas la conséquence, combien c'est douloureux. Pilate ne va pas tirer, qu'est-ce qu'il tient? Son pouvoir. Et il va, au lieu de dire, ben, cet homme est juste, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, eh bien, je le libère. Eh bien, non. Il y a tout le calcul politique, politico-religieux. Vous savez que c'est à cette occasion-là qu'il est dit Hérode et Pilate, le pouvoir religieux, le pouvoir politique, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent amis. Plutôt que de reconnaître, de trancher. Compromis, manipulation, pour des motivations qui sont dans le cœur, qui ruinent le cœur. Son épouse avait été tourmentée dans la nuit. Ne t'embarque pas là-dedans. Cet homme-là, il est juste, j'ai été tourmenté. Dieu avertit, Dieu donne des occasions à tout le monde. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas encore en lui, Dieu parle. Alors les conséquences de l'endurcissement, j'en ai déjà donné, mais Éphésiens 4, verset 18. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, c'est intéressant, s'adresse à des chrétiens, nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont la révélation, dont le cœur a été illuminé. Mais Paul trouve utile de dire, ne soyez pas comme des païens, ça veut dire que c'est possible qu'ayant connu, que connaissant la vie de Dieu, nous soyons réembarqués dans ces choses. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Romains, chapitre 1, nous dit, le processus nous le décrit, on ne peut pas tout reprendre ça. Mais comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Alors oui, c'est vrai qu'à un moment, Dieu, devant nos choix, tu veux aller, va. J'avais envie de parler de Lot aussi aujourd'hui. Lot, alors, certes, on dit à un moment qu'il est juste. Oui, il était justifié, Dieu l'a sauvé, etc. Mais pétard, il a fallu vraiment que Dieu l'arrache de Sodome. L'arrache de Sodome. Nous avons été arrachés de cela. Et il y a des racines qui restent, donc faisons attention de ne pas retourner dans ces choses-là. Paul juge utile donc de préciser dans la partie pratique de l'épître aux Éphésiens que les chrétiens ne doivent plus marcher comme les païens. J'ai parlé tout à l'heure des pharisiens. Dimanche dernier, Tony nous a lu le passage de l'homme à la main sèche. Vous vous rendez compte? Un homme, Jésus, c'est ce qu'il va faire. Il veut guérir, il veut libérer. Eh bien, les religieux disent non. Sur la base de leur raisonnement, ils ne veulent pas capituler sur leur raisonnement. Ça va loin. Ils gardèrent le silence. Jésus leur dit, mais est-ce qu'on peut guérir? Ils gardèrent le silence. C'est pas qu'ils ne savaient pas. Vous savez, il y a un autre épisode aussi. Hein. Le baptême de Jean, était-il de Dieu, était-il des hommes? Et ils font leurs calculs, si on dit qu'il est de Dieu, ils ne vont pas comprendre. Si on dit qu'il est des hommes, les gens vont se révolter, ils savent bien que ça vient de Dieu. Vous voyez tous ces calculs qui sont dans le cœur, qui détruisent. Ça fait une œuvre, ne croyons pas que... Il y a que les paroles, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. L'âme de l'homme, c'est un abîme, la parole nous le dit. Nous avons besoin que le Seigneur, de laisser sonder tout ça et nettoyer. Alors dans cet épisode de l'homme à la main sèche, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Jésus est affligé. Il est indigné, il dit c'est quand même pas possible. Et en même temps, il est affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il a encore une compassion, il veut tirer. Il va pleurer sur Jérusalem. Toi Jérusalem, qui bat les prophètes, qui les tue. J'ai voulu te ramener comme une poule. Rassemble ses poussins et tu ne l'as pas voulu. Et Jésus voit les conséquences. Il voit les conséquences dans nos vies. Il nous voit des fois dans nos enfermements. Et il est affligé. Il y a une spirale aussi qui se fait action-réaction. Proverbe 29, c'est quelque chose. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Un homme qui mérite d'être repris. Le Seigneur nous reprend. La parole de Dieu est bonne, toute la parole est bonne pour exhorter, consoler, encourager, reprendre, être repris. C'est pour éviter, hein, on s'écarte un peu, toc toc. Le texte sur les malédictions, bénédictions et malédictions dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, je ne le lis pas, il est beaucoup trop long, m'a souvent impressionné parce que Dieu expose la succession, la conséquence de la succession des refus de l'homme de se laisser reprendre avec toutes les conséquences. Et vous savez, à chaque fois, il y a des choses, des conséquences de plus en plus lourdes. Entendez dans ce que je vous dis ce matin comme une affliction. Comme une affliction, tellement sont belles les promesses de Dieu pour ses enfants. J'ai envie qu'on les saisisse et qu'on regarde là où il y a des choses qui se sont encoquées, enquistées, pour qu'on puisse opérer. Et bien donc, dans Lévitique, Dans Deutéronome, ce texte, il est un peu désespérant. Je vous le dis franchement, quand on lit la chaîne des malédictions, waouh, jusqu'où ça peut aller. Alors, je ne vais pas le lire. Mais par contre, dans Lévitique, on va lire, parce qu'au bout de tout ça, dans Lévitique 26, et je veux quand même vous parler en vérité, Lévitique 26, les versets 44 à 45, je vous laisserai lire seul, chez vous, tout le chapitre 26, et puis tout Deutéronome 28. Franchement, lisez-le. Pourquoi c'est intéressant? Alors vous allez dire, le Seigneur, il n'est pas drôle, il nous décrit tout un tas de choses. Parce que si jamais il y a une situation, vous savez, moi je suis un matheux, le Seigneur est logique quand même. Si en lisant ces chapitres, il y a un paragraphe où vous dites, mais attendez, c'est ce que je vis, ou c'est ce que mon frère ou ma sœur vivent, eh bien écoutez, ce sera super, parce que vous allez vous dire, bon, s'il vit ça, c'est que sans doute, il est dans cette chaîne-là des conséquences. Je vais pouvoir prier, intercéder pour lui. Et si c'est moi, Seigneur, tu m'éclaires encore. Parce que c'est logique. C'est un Dieu souverain, mais ce n'est pas un Dieu arbitraire. Il nous annonce ce qui se passe. Ces bénédictions et malédictions, je rappelle qu'elles sont données au peuple pour des temps même très lointains. Très lointains. Déjà dans la Genèse aussi. Il va dire, tu vas être un peuple, voilà ce qui va t'arriver, et puis je vais te donner ce pays, puis tu y resteras peu de temps, et puis tu seras déporté, mais j'irai te rechercher. Dieu nous avertit, il nous donne toutes les règles du jeu, il ne cache pas, il ne veut pas cacher ce qu'il fait, pour que lorsque des incidents nous surviennent dans notre vie, nous puissions tout de suite, à condition qu'on connaisse le mode d'emploi. Alors Lévitique 26, 44, 45, après avoir énoncé, je vous laisse lire encore une fois, il dit, mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, hein, c'est-à-dire que là c'est au bout du bout, hein, j'ai fini par être déporté, j'ai fini par être errant et supporter tout un tas de conséquences de ma folie, mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je ne suis pas un homme, je suis l'Éternel. Leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Mais je veux vous dire, je vous épargne, mais je vous demande vraiment de le lire. Dieu dit des choses dures par moments. Il dit de la même manière que j'ai pris du plaisir à vous bénir, je prends du plaisir à vous traiter de telle et telle façon, à cause de votre endurcissement. C'est dur, c'est de l'Ancien Testament. Écoutez, c'est pareil pour nous, parce que nous avons plus de révélations. Nous avons la révélation de la grâce, de l'œuvre à la croix. Nous avons tout. Alors ne nous laissons pas embarquer. Dès que ça dérive un peu, n'endurcissons pas notre cœur. Seigneur, je me suis planté. Je reviens tout de suite. Tout de suite, je recadre. Alors comment en sortir ? Les difficultés dans l'endurcissement, c'est qu'on s'enferme. Et si on n'a pas reconnu l'affaire au moment où elle est apparue, la porte est de plus en plus étroite. Mais je viens de vous dire qu'il y a toujours une solution. Mais ce qu'on dit ce matin, c'est pour épargner des souffrances qui pourraient abréger. Qu'est-ce qui fait qu'on s'endurcit comme ça? Il y a tout ce qui vient de notre histoire, et de longues habitudes ont pris place dans notre histoire. Pour certains, devant les difficultés de la vie, on a tous été blessés, malmenés quelque part. Hein. Tous. Il y en a peut-être qui se disent là, mais moi beaucoup plus. Oui, sans doute. Mais à Gethsémané, sache mon frère, ma sœur, mon ami, à Gethsémané, Jésus, des perles de sang. Pas qu'il ait eu du mal à prendre la décision. Il a vraiment tout abandonné à son père, mais il avait conscience de ce qu'il portait et de ce qu'il portait à cet instant-là. Les choses les plus abominables que tu as pu vivre. Il portait le péché de ceux qui t'ont blessé, et il portait aussi le tien. Donc oui, alors pour se défaire, pour se sortir de toutes ces affaires-là, Il y a toutes sortes de réactions, je ne vais pas en dresser la liste. Pour certains, c'était mon cas, c'était la réponse à tout, y compris à côté. La réponse à tout, ça rassure. Ça vaut pas, ça vaut rien, mais on prend des habitudes comme ça. Et vous savez que, à force d'avoir réponse à tout, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nécessairement, il y a du mensonge. Pour d'autres, c'est des contorsions pour plaire à tout le monde. C'est dommage, car Dieu connaît la situation et est obligé d'attendre pour délivrer. Tant que je bricole, machin, il ne peut rien faire. Pour d'autres, c'est l'accusation. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est le serpent. Pour d'autres, c'est la compensation par les œuvres, l'engagement ou l'activisme. Alors, pour s'en sortir, je vais... Je l'ai annoncé, il y aura la nécessité d'accepter que des brisements s'opèrent dans notre vie. Mais pour parler de brisement, je voudrais d'abord, en préalable, dire on ne peut se briser soi-même. Si certains sont tentés par ça, qu'ils abandonnent tout de suite. Tout de suite. Vous n'avez pas le marteau qu'il faut. Essayez des fois de... Il y a des choses qu'on... On va se faire, on va essayer de se faire mal. Bon, alors, il y a ceux qui sont vraiment maso, qui arrivent à se faire mal, ils se mutilent, etc. Puis il y a ceux qui se font mal. Oh, à un moment, ils retiennent le marteau quand même. Hein, parce que bon, moi, je n'ai pas réussi. On ne peut se briser soi-même. La question est, lorsque les circonstances surviennent, est-ce que je reconnais l'œuvre souveraine qu'on a chantée du Seigneur? Ou est-ce que je reprends tous mes anciens sentiers pour me justifier, me victimiser, rappeler toutes les injustices dont je suis victime? C'est ça la question. On ne peut pas se briser soi-même. Oh, je me brise, j'ai été brisé. Non, on ne peut pas, impossible. Deuxièmement, nous ne sommes pas chargés de briser nos frères et sœurs. J'ai une petite... Le Seigneur seul maîtrise ses temps dans la vie de ceux qui veulent véritablement le servir. Le Seigneur seul. Le Seigneur seul fait concourir des circonstances au milieu de plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Je vais prendre quelques exemples. Moïse, première tentative, un appel pour sauver le peuple. Première tentative pour sauver le peuple. Justice de l'homme. Il en tue un, le lendemain il essaye de régler un problème avec ses frères, l'autre lui dit « Tu te prends pour qui toi ?» Il se sauve. Et là, derrière ses moutons, pendant 40 ans, je pense que le cœur de Moïse va être brisé et il aura encore bien d'autres occasions. Et quand le Seigneur lui dira « Vas-y », il aura bien du mal à accepter. Un homme dont le cœur a été brisé. Brisé, ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous mettre en miettes. Notre cœur, notre système de pensée, nos tours qu'on a bâtis nous-mêmes ou que d'autres ont mis en place dans nos cœurs. Myriam, la sœur de Moïse, a connu ce brisement de la part du Seigneur et l'a accepté. Myriam, qui précédait le peuple, qui louait après la délivrance, à un moment dans les difficultés, elle a commencé à accuser Moïse, etc. Elle a accepté cette lèpre et puis après, elle a continué. Esaïe, prise de conscience de sa souillure, purification et appel à porter la parole de Dieu dans des circonstances difficiles. Je ne parle pas de Jérémie. Jérémie, comment il a été brisé. Baruch, tenez, on va... Baruch, vous savez, le secrétaire de Jérémie qui a écrit le livre qu'il devait porter au roi. Le roi l'a déchiré, il en a réécrit un autre. Et alors, Baruch, ça ne devait pas être facile. Hein. Franchement, ces ministères-là, pas facile du tout. Prêcher quelque chose, on aime mieux prêcher la grande victoire, etc. Lui, il annonce, il avertit, il ne va pas être écouté. Finalement, le peuple va être déporté, lui avec. Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Jérémie. Alors Jérémie, tenez, on va les lire dans Jérémie 45. Un chapitre qui est assez court. Jérémie 45, c'est intéressant. Baruch, on ne parle pas souvent de lui. Baruch, C'est très court. Jérémie 45. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. » Baruch, il n'en peut plus, Baruch. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, c'est sympa comme phrase, hein. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout le pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et il y a enfin une parole pour Baruch, saisissez cette parole. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. C'est pas je te donnerai la prospérité, ça va baigner, tu vas avoir un super ministère. Et puis alors, le peuple va se convertir, il va revenir, il va abandonner ses idoles. Mais quelle parole précieuse pour Baruch de la part de Dieu. Après l'avoir brisé, il n'en peut plus, Baruch. Vous avez lu, hein ? Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Saisissons cette parole. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Sous-entendu, dans tous les lieux où je vais te mener. Mais je te donnerai ta vie pour butin. Et cette vie, c'est la vie éternelle pour nous. Dans tout ce que nous traversons, ne perdons pas ça de vue, je vous l'ai dit. La vie éternelle, Seigneur. La vie éternelle. Pierre, comment le brisement de Pierre, je dirais, il y en a eu des brisements là, chez Pierre, cet effondrement lors du reniement, cœur brisé encore lorsque Jésus finalement le relève, quel bon brisement, va lui poser cette question, cette seule question va briser le cœur de Pierre, m'aimes-tu ? Il ne sait plus où il en est, Pierre. Mais voyez cette parole, comment elle est pénétrante, mais elle va le toucher. Elle va libérer Pierre, cette parole-là. Vous voyez, moi je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, si, plusieurs, je pense, ici ont vécu des choses comme ça. Une parole de Dieu qui vient nous briser, nous montrer. On a tout raté, mais il nous aime, il nous relève, il nous rend libres. Mais cette parole, Pierre, m'aimes-tu ? J'en peux plus. Pierre encore, lorsque son cœur partagé a été dévoilé par Paul. Ah, c'est l'occasion. Là, c'est Paul. Vous vous rappelez, l'épisode auquel je fais allusion, Pierre était avec des chrétiens d'origine païenne, et ils avaient peut-être une agape, ça se passait bien. Et puis arrivent des gens de l'entourage de Jacques, l'église de Jérusalem, plutôt des chrétiens, mais d'origine juive. Vous savez qu'il y avait des débats encore sur le problème de la circoncision et sur un certain nombre de points assez accessoires. Hein. Et Pierre était bien à l'aise avec ses frères et sœurs, comme on est là. Et puis il y a un responsable de Jérusalem qui arrive, Jacques, puis des gens de son entourage. Et Pierre, il ne sait plus où se mettre. D'un seul coup, il a la sueur et Paul, il a le discernement. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Si toi qui es juif, tu reconnais, t'as reconnu ton sauveur, c'est toi qui as reconnu le premier, le Seigneur Jésus-Christ, comme ton sauveur et Seigneur, le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu bricoles, là ? Tu vas faire chuter des gens, là ? On est libre ! Paul, attendez, imaginez-vous la scène, moi j'aime bien me représenter un peu la scène, quand même. Tenez, c'est une assemblée comme ça, et y a Paul qui va dire à Pierre, quand même, Pierre, un des piliers. Pierre, il le reprend. Vous voyez un peu là, ça c'est de la maturité hein, spirituelle. Il le reprend, c'est-à-dire que le Seigneur, pour briser cette chose-là et traiter cette chose-là, c'est Pierre, va utiliser un homme, Paul. Alors vous allez dire, c'est Paul. Ouais, Paul, c'est qui Paul ? Celui qui a persécuté l'Église. Celui que les autres ne voulaient pas voir. Celui qui respirait en allant à Damas, la vengeance et le meurtre. Dieu se sert, peut se servir de nous pour un frère. Ça veut dire qu'il peut se servir d'un frère aussi ou d'une sœur pour nous. Alors, c'est possible qu'il se serve, mais vérifions quelques points. C'est sûr que si des choses sont enkystées, il y a besoin d'une opération. Un verset, du verset biblique nous y invite, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Je vous passe la suite. C'est pas mal. Pourvu qu'on ait bien préparé le champ opératoire. Et là, il y a des mesures, vous savez, les mesures, ce qu'on appelle les mesures prophylactiques, toutes les mesures un peu d'hygiène. J'en vois deux catégories. Il faut travailler dans un milieu aseptisé. Alors, vous savez que les milieux aseptisés ont le... Des milieux des chambres blanches, je vois Jean-Pierre, là, qui a travaillé dans ce domaine. Pour faire des circuits électroniques, il faut des milieux hyper propres avec des aspirations en bas des chambres blanches, là. Alors, combien plus forte raison pour des opérations sur le corps, hein, un jour, moi, j'ai eu une petite infiltration. Rien que pour une infiltration, ils ont le champ opératoire, le machin, ils désinfectent. C'est très bien. Pour juste une petite piqûre, parce qu'il y a un petit trou, quand même, qui va être fait. Pour qu'il y ait d'infection. À combien plus forte raison, frères et sœurs, s'agissant de choses spirituelles qui nous dépassent, l'âme, le cœur d'un frère, d'une sœur. Oh là 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 là, Seigneur. Seigneur, il faut qu'il y ait une atmosphère générale. C'est ça l'asepsie, le milieu aseptisé. C'est celle du royaume qui doit être vérifiée. Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande ça, si j'ai à intervenir, hein? Et mon cœur, il est dans quel état? Est-ce que je suis bien dans l'atmosphère du royaume? Justice, paix et joie, qui provient d'un cœur en bon état. Besoin d'un entourage, d'une atmosphère d'amour, d'une atmosphère de 1 Corinthiens 13. Est-ce que, au moment où j'interviens avec ce frère, j'ai mis 1 Corinthiens 13 en place? L'amour qui supporte tout, qui endure tout, qui ne tient pas compte du mal. Est-ce que j'ai supporté pendant 2 jours, et à la fin, j'ai dit, « Ah, Seigneur, il faut que j'aille voir mon frère et que vraiment je lui dise. » Ou est-ce que j'ai intercédé pendant des mois? Parce que si vous intercédez pendant des mois, si j'intercède pendant des mois, je vous promets une chose, le Seigneur va me montrer que ce que je vois très, très bien chez mon frère, si je vois bien, c'est parce qu'il y a des choses qui ressemblent chez moi. Alors ça, c'est un grand bénéfice, parce qu'on va faire d'une pierre 2 coups. Je vais commencer par rectifier les affaires, et peut-être, oui, un moment, peut-être, il faudra parler à mon frère ou à ma sœur. Je voudrais pour prolonger là-dessus, souligner une deuxième chose. Pour être délivré, pour que ces brisements qui amènent la vie puissent se produire, c'est important d'être dans un corps. Pourquoi? Parce que ce qui nous a blessés, ce que nous n'avons pas reconnu sur le moment, par peur de plein de choses, passer pour un faible ou s'en reprendre une, hein, nous a conduit bien souvent dans la servitude, car on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Soit dans la colère, soit dans les passions compensatrices qui nous permettent de nous affranchir et de nous distinguer. Toutes ces choses sont devenues notre fausse identité et nous ont abîmés. La difficulté, c'est que le plus marquant souvent dans cette fausse identité, nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Et je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vraiment reçu ces derniers jours, c'est dans le psaume 129, qui nous dit ceci, c'est dans le Cantique des Degrés, « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. » Écoutez bien. « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. » Des laboureurs ont labouré notre dos, frères et sœurs, les amis qui sommes là ce matin. Des choses se sont passées dans nos vies qui ont structuré notre identité dans une fausse identité. Et le problème, c'est que nous ne le voyons pas. Vous savez, Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Il y avait le truc du 1er avril, poisson d'avril. Il y avait des choses, des plaisanteries sympas, mais vous savez, il y a de la méchanceté qui va se loger là-dedans. Je ne sais pas si c'est peut-être arrivé à certains de se promener toute une journée avec je ne sais quoi, moi une queue de lapin ou je ne sais quoi, ou des choses plus méchantes encore. Ça fait bien rire. Sauf des fois, celui qui découvre, tard dans la journée, qui s'est promené avec ça et que tout le monde s'est moqué de lui. Les sillons, ils ont été creusés dans le dos. Et moi, je ne peux pas voir ce qui se passe dans mon dos. Mais mes frères et sœurs le voient bien. Et là, vous voyez, on touche à quelque chose d'énorme dans la vie d'une communauté comme la nôtre. C'est que le Seigneur est venu racheter nos vies. Il a ouvert notre esprit et nous discernons des choses. Je crois qu'il y a dans la vie de chaque chrétien né de nouveau un discernement des choses qu'il voit aussi chez son frère, chez sa sœur. Donc là, c'est un lieu de combat spirituel là, énorme. Quand je vois quelque chose chez mon frère, chez ma sœur, je le vois pour me mettre à genoux, pour intercéder, peut-être un jour pour lui parler. Mais cette chose m'a parlé, et je prie aussi, Seigneur, ce que j'ai dans le dos, des choses qui ont structuré ma personne, que mes frères voient, Seigneur, puisse, dans ta grâce, trouver le bon moment dans ta souveraineté pour me révéler. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, c'est ce brisement-là dont on a besoin. Un brisement qui libère. Un brisement qui permet à la vie, à la véritable identité de se développer, de porter du bon fruit. On a besoin de cela. Alors nous devenons, oui, source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Je voudrais dire ce matin, je vais demander aux musiciens, je vais demander un chant. Peut-être on ne le connaît pas trop, mais si, certains le connaissent. Et puis, ce n'est pas grave, ben vous l'écoutez si vous ne le connaissez pas. On dit ça, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Et puis, il y a des choses encourageantes. Je vous demande, on va écouter ce chant, et puis je prierai pour conclure ce message. Que vraiment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, l'Église de Jésus-Christ, il est en train de la préparer. On n'est pas parfait. On se blesse encore. Des choses qu'on promène dans notre dos nous blessent encore d'autres. Est-ce qu'on est d'accord pour se supporter ? Seigneur, vraiment, oui, j'ai besoin d'un cœur brisé et contrit, Seigneur. Pas pour être libre, Seigneur.
Seigneur, ce dont j'ai besoin, s'attache à ta présence.
Mais Seigneur, je te le demande, Seigneur, pour moi, pour mes frères. Seigneur, je te rends grâce. Des frères et sœurs, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, à mes côtés. Je te prie que chacun puisse dire cela ce matin. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs que tu as mis à mon côté. Merci, Seigneur, pour ceux qui te connaissent depuis longtemps. Merci pour ceux qui ont plein de maturité, Seigneur, qui savent intervenir au bon moment, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont la joie de te connaître depuis quelque temps, Seigneur. Seigneur, donne-nous, donne-moi, Seigneur, de nous supporter. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ton secours, de ton assistance. Avec mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, que ce lieu, que cette assemblée, Seigneur, soit un lieu de guérison, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Tu sais combien nous croyons, Seigneur, que tu guéris l'être tout entier, Seigneur. L'esprit, l'âme, nos corps aussi, Seigneur, qui ont été bien souvent troublés aussi par tout cela. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, comme disait mon frère aîné Raoul Mazel, Seigneur, donne-moi un cœur de simplet. Un cœur de simplet, Seigneur, pour que cette joie, Seigneur, du salut, cette joie de te connaître, cette joie, Seigneur, de savoir que mes péchés ont été pris, lavés, purifiés, que mon cœur, Seigneur, tu veux que notre cœur soit purifié. Donne-nous un cœur pur. Viens faire ce travail, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ta souveraineté, viens transformer ma vie, Père, et la vie de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.